France Culture.
Ce qui est commun aux pieds noirs, c'est d'être né dans l'Algérie française, dans cette colonie de peuplement. Et donc on a été socialisé dans ce monde colonial. Et c'est vraiment le fait d'être né dans ce monde qui n'existe plus, qui fait d'abord une première définition de ce que c'est qu'être un pied noir. Mais ce n'est pas tout. La deuxième étape, c'est d'avoir connu le rapatriement, c'est-à-dire d'être parti de cet endroit-là. D'être parti de l'Algérie française en 1961, en 1962, et donc du coup d'avoir vécu cet exil, cet arrachement à cette patrie, à cette terre natale, à cet endroit où ils avaient fait leur vie, et à se réintégrer dans la France des post-indépendants.
Je ne pense pas qu'il puisse se trouver un seul auditeur, une seule auditrice qui ignore encore la nouvelle, la grande nouvelle d'hier soir. L'espoir enfin devenu réalité, les accords ont été conclus à Évian entre la France et le FLN. Le cessez-le-feu est pour aujourd'hui lundi à midi précise. Algérie donc, les nouvelles de la nuit, là-bas, en Algérie même, ne sont pas trop mauvaises, mais la tension demeure.
Les pieds noirs d'Algérie, la colonisation pour mémoire. Épisode 2, 1962. L'exil en commun.
En métropole, ce soir à 20h, c'est Monsieur Jox qui, dans une allocution radio-télévisée, exposera les grandes lignes des accords d'Évian.
RTF, 19 mars 1962.
Nous vous en donnerons nous-mêmes l'essentiel à la fin de ce journal.
La sortie de guerre, la fin de la guerre d'Algérie, est un moment de grande tension.
Jens Kölde-Zürker, historien.
Est un moment de grande violence, d'inquiétude et d'une perte générale de confiance dans la capacité des autorités à pouvoir les protéger. Et donc cette crainte, cette situation extrêmement anxiogène qui voit une société s'effondrer en quelques jours, sinon quelques mois, mais qui voit la fin d'un monde est véritablement une situation véritablement commune à tous les Européens d'Algérie. Le drame collectif fait groupe. Et si le drame collectif fait groupe, il fait aussi mémoire.
L'année 1962 mit fin à 8 années de guerre en Algérie et à plus d'un siècle de colonisation. Dès lors, la quasi-totalité du million de Français qui vivaient là-bas va devoir quitter précipitamment et définitivement l'Algérie pour rejoindre la métropole. Lors de la seule année 1962, ils seront 650 000 à arriver dans les ports et les aéroports français. Cet événement restera pour beaucoup d'entre eux un déracinement difficile qui marquera la naissance de la communauté pieds noirs.
Vive la liberté !
Vive l'Algérie indépendante !
1962, c'est vraiment c'est la fin de l'Algérie française.
Karima Diresh, historienne.
C'est la fin d'une histoire coloniale qui a duré 130 ans, il faut le rappeler. 132 ans, il faut toujours rappeler, parce qu'à chaque fois j'oublie les deux années, on me le reproche à chaque fois, 132 ans. Et il faut rappeler que l'Algérie, c'est le seul territoire colonial à être considéré comme un territoire français. C'est une extension territoriale et juridique de la France métropolitaine. Et de ce point de vue, l'Algérie, contrairement à la Tunisie et au Maroc, il a été très difficile pour la France de lâcher ce qui était considéré comme le joyau de l'empire colonial français. Et ces accords d'Évian, c'est un peu le ciel qui tombe sur la tête des Français d'Algérie. Et c'est une situation très tendue, d'abord à cause de toutes les exactions qui ont été commises à la fois par l'OAS, mais aussi par le FLN envers la communauté européenne et envers les Harkis.
On signale une recrudescence d'attentats sur l'ensemble du territoire.
Des attentats individuels ont fait, entre 17h45 et 18h20, une dizaine de morts musulmans à Alger, dans le quartier de Belcourt, entre le Monoprix et le Champ de Manœuvre.
À Orléansville, c'est le président du groupement sportif orléansvillois qui a été assassiné.
Le terrorisme, en effet, en ce moment, prend la forme la plus spectaculaire de la rébellion.
L'attaque à la grenade d'un car sur la route moutonnière.
Et dans la plupart des cas, ce sont des musulmans qui en sont victimes.
Celle plus récente d'un autre car à la sortie de l'Arba.
Ici Alger, à vous Paris.
Il faut bien comprendre ce qu'est le quotidien de l'Algérie en 1962. D'abord, c'est un monde qui devient extrêmement anxiogène. Vous avez, depuis septembre 1959, une population qui sait que le pays va devenir indépendant et qui redoute cette indépendance dans son immense majorité. Et vous avez une population qui est inquiète, qui se demande si elle peut rester, si elle doit partir. Et au même moment se développe un terrorisme urbain et rural par ailleurs, considérable. Un terrorisme qui est celui de l'OAS, qui est une organisation d'extrême droite, qui pense qu'en luttant contre De Gaulle, qui personnifie à leurs yeux cet abandon des territoires algériens, eh bien l'Algérie resterait française, et donc ils vont commencer à mener des activités terroristes de grande ampleur. Ils les mènent en métropole, ils les mènent aussi en Algérie, en tuant, en assassinant sans doute 15 000 personnes. Et puis à ce terrorisme d'extrême droite, il y a aussi le développement d'enlèvements et d'assassinats par sans doute des soldats FLN, mais aussi des populations arabes, de populations européennes. Et donc, dans ce même temps, on voit les villages, les routes devenir extrêmement insécures, et toute une population essaie de se réfugier en ville, dans les grandes villes d'Algérie, principalement Oran, Alger, et dans une moindre mesure Constantine. Et en ville se développent aussi les attentats. Donc on a une population qui est prise en étau et qui est dans une anxiété quotidienne et quotidiennement renouvelée.
Moi, j'étais en 60-61, donc j'étais en Hippocagne, au lycée de garçons d'Oran, au lycée La Mauricière.
Anne Mattei.
Donc j'ai fait ma scolarité là, dans des conditions un petit peu difficiles, puisqu'il y avait le couvre-feu, il y avait... On était ramenés par des camions militaires chez nous. Et évidemment, on ne sortait pas. C'était une vie quand même assez cloîtrée. Et donc, quand il s'est agi de faire peut-être une cagne, mes parents n'ont pas voulu, étant donné le contexte, que je parte à Alger. Donc, je suis partie à Aix-en-Provence, comme beaucoup de mes camarades de cette promotion-là. Quand je suis partie par bateau, par le ville d'Oran, en septembre donc, pour aller à Aix, et mes parents m'ont accompagnée évidemment sur le quai, on était à plusieurs camarades à partir ensemble, et je me souviens très bien du quai du port d'Oran, de toute la ville devant moi, et Notre-Dame de Santa Cruz que je regardais, et à l'époque j'étais très heureuse, très contente, évidemment, parce que pour moi c'était une nouvelle vie, etc. Bon... Et j'ai vu s'éloigner le rivage, j'ai vu mes parents qui me faisaient des signes, et ça a été un gros déchirement pour moi quand j'ai fini par comprendre que c'était en fait la dernière fois que je voyais mon pays et ma maison, et ma ville. Et donc j'ai cette image qui est restée, et que je revois toujours, je revois exactement comme si je l'avais devant mes yeux. C'est très curieux parce que il y a beaucoup de choses que j'ai dû oublier, mais cette vision-là, je l'ai toujours.
C'est le temps du plastique, dirait Léo Ferré. Songez, ce que vous venez d'entendre s'est produit 135 fois, du 1er janvier au 13 novembre.
Des grenades sont lancées dans des endroits publics de différents centres. Cet après-midi encore, à 16h, une bombe de grande puissance a été lancée dans un café mort de Constantine.
Dès l'année 1961, le climat en Algérie devient insurrectionnel. Les pieds noirs les plus radicaux refusent l'idée que l'Algérie puisse devenir indépendante. Ils décident donc de former des milices armées pour se battre et maintenir l'Algérie française. En février 1961, des militaires vont ainsi faire sécession en s'alliant avec ces milices pour créer une organisation unifiée et structurée, l'OAS.
L'organisation armée secrète, qui est donc un groupe terroriste, d'extrême droite, parce qu'il porte une idéologie très coloniale, finalement.
Paul-Max Morin, historien.
Assez proche du franquisme, si vous voulez, de l'époque, où se mêlent le traditionnalisme, le racisme colonial, le conservatisme, la nostalgie, pour certains, du pétainisme, etc., etc., et qui va porter une fronde contre De Gaulle, contre la politique française, pour garder l'Algérie française, et donc déstabiliser le monde colonial pour renverser la table, que l'armée puisse rejoindre le mouvement et reconquérir l'Algérie française et peut-être même la France à partir d'Alger sur le modèle de ce que le général Franco avait fait en Espagne.
Jean Lanzy au micro. Ce soir encore, Bab El Oued reste le point névralgique du problème algérien. Bab El Oued qui s'est voulu citadelle de l'OAS, Bab El Oued qui se replie sur elle-même, toujours bouclée par un cordon de gendarmes et de militaires, tandis que se poursuit l'exploration méthodique des appartements et des terrasses d'où l'on a encore tiré cet après-midi, sporadiquement il est vrai, sur des soldats français.
Interactualité, 24 mars 1962.
Il n'est pas d'autre loi républicaine que celle du châtiment, a dit à ce propos M. Debré, au représentant de l'UNR réuni à Neuilly. À Martigues, M. Buron a mis l'accent sur les rigueurs nécessaires de la répression. M. Guy Mollet, encore au cours du Conseil national de la SFIO, a défini l'attitude de son parti contre les criminels qui, au nom de la France, a-t-il dit, s'insurgent contre la France.
Le 18 mars 1962 sont signés les accords d'Évian, qui annoncent le cessez-le-feu, le transfert des pouvoirs de l'État français au nouvel État algérien et la tenue d'un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Les Français d'Algérie les plus radicaux refusent ces accords et vont commettre plusieurs assassinats dans les jours qui suivent. Une insurrection est ainsi menée par l'OAS dans le quartier de Bab El Oued à Alger. Plusieurs militaires sont tués, ce qui force l'armée à boucler le quartier pour le fouiller et mater la rébellion. Quelques jours plus tard, le 26 mars 1962, l'OAS appelle les Français d'Algérie à venir manifester leur soutien alors que Bab El Oued est toujours encerclé. Dans ce climat très tendu, cette manifestation réunissant plusieurs centaines de civils va se finir tragiquement par la tuerie de la rue d'Isly, qui marquera un tournant pour de nombreux Français d'Algérie.
Alors le 26 mars, bien le matin, on y est allé à l'école. J'étais dans mon école, quoi, ma petite sœur aussi. Et à 11h30, on est sorti de l'école, on arrive à la maison. Et là, on entend parler manifestation pacifique. Il va falloir prendre les drapeaux et puis apporter à manger aux gens de Bab El Oued. J'entendais tout ça, mais bon.
Annie-France Ferrandis, victime de la fusillade de la rue d'Isly.
J'ai dit manifestations, bon oui, pourquoi pas, des manifestations, on en avait fait tellement, même à mon âge, j'avais 17 ans, mais depuis l'âge de 14 ans, je suivais les manifestations, toujours pour prouver notre attachement à la mère patrie, et toujours avec le drapeau bleu, blanc, rouge en tête. Donc on est parti de la maison, et j'avais dit à ma grande sœur, 22 ans, René, je lui ai dit, je peux venir, parce qu'il fallait l'autorisation de la grande sœur. Hein. Et elle m'avait dit, oui, si tu as l'heure. Et on était partis, donc, à pied, du champ de manœuvre, jusqu'à la rue d'Isly, en passant par des petites rues. Mais le truc, c'est que, en fait, on prenait les rues, mais on y était obligés, parce qu'il y avait les chevaux de frise qui nous interdisaient de prendre certaines rues. Et on est arrivé donc sur le plateau des Clillards, devant la Grande Poste. Et là, ma sœur Renée, elle dit, « Ah tiens, la poste est fermée !» Parce qu'elle travaillait à la Grande Poste, ma sœur. T'es surprise de voir la poste, la porte du personnel fermée. Bon, pas grave. Et on arrive juste devant la rue d'Isly, devant le Crédit Foncier. Et à ce moment-là, le barrage se ferme complètement, devant nous. Donc j'étais à même pas un mètre des militaires. Alors on attendait, puis une dame a dit « Monsieur, s'il vous plaît, mon fils et mon mari sont enfermés à Bab El Oued, vous nous laissez passer. » Et puis à ce moment-là, un des militaires a armé et s'est mis à tirer. Comme ça, brutalement. Et bon... panique, quoi. Je ne savais plus quoi faire. Je vois les gens qui partent dans tous les sens. Et je vois ma sœur Renée qui court et je l'appelle. Et elle me dit « Viens !» Et elle m'attrape la main et elle se jette sur le trottoir devant le Crédit Foncier, moi à côté d'elle. Et on entendait les coups de feu. On a attendu à bouger. Et puis ça a repris. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai été blessée. J'ai reçu une balle dans le ventre. Hein. Ma sœur Monique a été blessée aussi. Là, c'était vraiment la peur. Et je me souviens, je me cachais dans le manteau de ma sœur parce que je ne voulais pas voir venir la mort. Et ça a tiré jusqu'au moment où ça s'est arrêté. À ce moment-là, j'ai attendu. Et puis, j'ai senti que ça bougeait autour de moi. Et il y a un monsieur qui commençait à se lever. Et je lui dis, ça y est, monsieur, c'est fini. Il m'a dit, ben écoutez, si vous n'êtes pas morte, sauvez-vous.
Et je me suis relevée, et il y avait ma sœur contre moi. Alors je l'ai soulevée, je l'ai prise sur mon bras. Et elle avait les yeux ouverts. La tête est retombée. Et j'ai vu qu'elle était morte. Et j'ai vu mon autre sœur en plein milieu de la place. Et elle me criait, viens, viens, viens m'aider. Et moi, je lui disais, mais ils ont tué René.
Interactualité, 26 mars 1962.
La fusillade vient d'éclater, vous l'entendez. Et actuellement, la foule qui s'était rassemblée sur l'avenue Pasteur, devant l'hôtel Albert Ier notamment, s'enfuit en tous sens sur le plateau des Glières et dans les rues adjacentes. Pour le moment, il est impossible de savoir, ce sont des armes lourdes.
Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Huit jours plus tard, la population partisane de l'Algérie française manifeste. Le 26 mars 1962, elle manifeste donc dans les rues d'Alger et l'armée va tirer sur la population française. Et ce moment-là, le 26 mars 62, est un grand moment de prise de conscience. La population française d'Algérie comprend que l'armée française qui les protégeait jusqu'alors ne sera peut-être plus là pour assurer la transition. Qui est la transition vers l'indépendance. Et là, une immense panique s'empare de la population des Français d'Algérie et tout le monde cherche à fuir.
Alger, 35 morts, 125 blessés à la manifestation interdite du plateau des Glières. Ce que l'on redoutait est arrivé, bousculé, provoqué par plusieurs centaines d'Européens, mitraillés des toits du Mauritania par des commandos OAS. L'armée a ouvert le feu. Tout a commencé à 15h, tout était terminé 20 minutes plus tard.
Les quelques mois entre mars, je dirais, et juin 1962,
Karima
juillet 1962, ça a été un moment qui était marqué par des attentats et par des tueries qui étaient omniprésentes. Et c'est vrai, par une radicalisation aussi très très exacerbée d'un camp contre un autre camp. En fait, c'est dans ce climat de violence extrême que les Français d'Algérie ont été pris d'une certaine façon en étau. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de partir. Vous savez, c'était ce fameux slogan, la valise ou le cercueil. Et donc partent.
Madame, s'il vous plaît, puis-je vous demander de quel point précis vous arrivez ?
D'Alger ?
Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à prendre l'appareil ?
Oh, plutôt, oui.
Oui, comment ça s'est passé ?
Bah, écoutez, je suis restée de 4h30 à ce matin, à 11h, à l'aérodrome d'Alger.
Oui.
Dans des conditions absolument effroyables et je comprends pas pourquoi d'ailleurs.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à l'aéroport ?
Oui, à partir de 6h du matin, vous avez des gens qui arrivent et qui stationnent derrière les barbelés à l'entrée de...
Est-ce que vous pensez rester définitivement en France ?
Monsieur, le problème est tellement difficile.
Oui, vous ne savez pas encore.
Si vraiment il y avait l'indépendance, c'est impossible de retourner.
C'est ça.
C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants... viennent.
Mais comment était la situation au moment de votre départ ?
Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe, c'est affreux. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a, aussi bien pour nous que pour eux.
Alors, fuir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi s'éloigner.
Jens Kelderzurker.
Donc vous avez à la fois des populations qui décident, bon ben maintenant c'est fini, il faut rentrer en métropole, et donc qui recherchent des cas de déménagement. L'histoire des cas de déménagement dans les rues d'Algérie est une histoire fascinante à ce moment-là. Certains sont volés, certains sont pris d'assaut, et une grande partie de la population comprend qu'elle ne pourra pas déménager ses affaires si elle souhaite se réfugier en métropole. Et puis, il y a aussi une population qui décide de se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, ça veut dire, bon, bien, on part le temps de la transition qui va être compliquée et on reviendra sans doute au mois de septembre pour la rentrée des écoles, etc. Et donc, les quais des aéroports, les embarcadères dans les ports sont pris d'assaut par une population qui part. Elle ne sait pas forcément à ce moment-là si elle part définitivement, et elle part dans une grande panique. D'où ces photos de ponts, de bateaux surchargés, de familles qui attendent très longtemps sur les quais, de ballots emballés à la va-vite, et parfois de familles qui vont rester en métropole en ayant simplement quelques valises et en ayant tout laissé derrière eux. Donc on est dans une situation qui est celle, effectivement, de population qui, après coup, peut s'apparenter à des réfugiés.
Je m'appelle Elisabeth Pujol. Je suis née dans un petit village, Mazagran, qui est un village historique, entre Oran et Mostaganem. J'étais préadolescente au moment de l'indépendance, en 62, quand nous sommes tous rentrés en France. Donc, j'étais quand même en âge de comprendre que on quittait cette terre et qu'on n'y reviendrait plus. Ça, je le savais. Et je me souviens que dans la voiture qui menait de Mazagran à Oran, c'est 80 kilomètres, c'était à peu près une heure de voiture à cette époque-là, j'avais conscience que je devais fixer dans ma mémoire tout ce qu'on voyait sur le chemin, parce que c'était la dernière fois et qu'il fallait pas que je l'oublie. Ça, j'ai le souvenir d'avoir eu conscience de ça. Quand on est arrivé à Oran, donc j'avais jamais vu de ma vie un camp de réfugiés, mais l'aéroport, c'était un camp de réfugiés où il y avait essentiellement des femmes, des vieillards et des enfants. Donc mon père, mes oncles sont restés en Algérie au moment de l'indépendance, puisque la plupart des hommes étaient des agriculteurs et que ils ne pouvaient pas quitter l'Algérie, car s'ils la quittaient, le risque était que leur terre soit immédiatement nationalisée. C'était donc tout début juillet 62. Et nous avons pris un avion un peu dans la précipitation. Je n'ai pas la date exacte. Je pense que c'était dans les 10 derniers jours du mois de juin où on s'est précipité à l'aéroport parce que les choses allaient mal et que mon père avait peur qu'il nous arrive quelque chose, qu'on soit agressé ou... enfin, que quelque chose se passe de très, très fâcheux. Donc, avec ma mère, mes tantes, une de mes grand-mères, parce que l'autre a voulu rester avec ses fils en Algérie jusqu'à la fin, on s'est retrouvés dans cet aéroport. Il y avait des milliers, des milliers, des milliers de gens. Je crois que la mémoire bouscule un petit peu la réalité parfois. Donc, je ne sais pas si nous sommes restés 2 jours ou 3 jours, mais ça nous a paru une éternité. C'était des conditions atroces, c'est-à-dire imaginer un simple aéroport qui reçoit des dizaines de milliers de gens avec leurs bagages. Donc, on n'avait rien à manger, on n'avait pas ce qu'il fallait pour boire, je ne vous parle pas des toilettes et de leur état. Et on ne savait pas où on allait partir, on ne pouvait pas choisir sa destination. On nous donnait des tickets sur lesquels étaient inscrits des chiffres. Et régulièrement, c'était comme une navette entre la France et l'Algérie. Il y avait des avions qui partaient, qui revenaient sans cesse. Et en fonction des numéros, on se présentait à une porte d'embarquement. Et on nous disait, votre avion part à Toulouse ou à Strasbourg ou à Marseille ou Dieu sait où. Mais nous n'avons pas choisi le lieu de notre destination. Nous n'avons pas pu.
Mes parents sont rentrés par avion. Ils sont partis juste après le 5 juillet. En fait, ils ont attendu dans l'aéroport de la Seigna à Oran. Ils ont attendu pendant 2 jours, je crois, avant d'avoir un avion. Et ils sont arrivés. J'y revois là aussi mes parents, que je n'avais pas vus depuis un an, pratiquement, disons 9 mois, et qui étaient changés, que j'ai trouvés... curieusement, très changé. D'abord, ma mère avait beaucoup de cheveux blancs, pratiquement très très blanches, alors qu'elle n'en avait pas, à mon souvenir. Et mon père qui était un homme extrêmement affable, aimable, souriant, qui plaisantait beaucoup, avait ce visage fermé et dur que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vu. Mon père avait essayer de rester jusqu'au bout, et même peut-être il aurait pu voulu rester un peu après le 5 juillet, mais ce qu'il a vu le 5 juillet était tellement épouvantable que là il est allé chercher ma mère qui était encore à son bureau et il a dit on part tout de suite, voilà.
Inter, actualité.
RTF, 5 juillet 1962.
Au micro Jean Lanzy. À Oran, l'allégresse de l'indépendance a cédé la place vers 12h30 aujourd'hui à une brusque panique. Dans le centre de la ville, alors que les musulmans manifestaient leur joie, Des coups de feu sont partis. Et vite, c'était une fusillade nourrie. Une fusillade dont on ne sait encore au juste qui l'a déclenchée. Quant au chiffre des morts et des blessés, imprécision aussi, c'est le premier incident grave depuis l'indépendance.
Le 5 juillet, c'était l'indépendance, hein, c'était les fêtes de l'indépendance, donc les Algériens sont beaucoup sortis dans la rue, et puis ils ont massacré, on peut dire, ou enlevé tous les gens qui leur tombaient sous la main. Et beaucoup ont disparu. Mes parents ont eu des amis qui ont disparu, qui n'ont jamais revu, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et mon père, lui, il avait un bureau, son bureau d'architecture était près de la place de la cathédrale d'Oran, et il est parti de son bureau. Et il est remonté la rue qui s'appelait à l'époque la rue de Mostaganem, qui était une rue qui allait vers notre maison et aussi vers le rectorat où travaillait ma mère. Et il m'a raconté plus tard que dans cette rue de Mostaganem, que je connaissais évidemment très bien, que à tel ou tel endroit, sur tel porche, telle maison, bien, il y avait des gens pendus, d'autres sur des crocs de boucher, d'autres massacrés par terre, mutilés, etc. Et donc, voilà, c'est là qu'il a... Enfin, quand il a vu ça, il a dit « on ne peut plus rester, c'est pas possible ».
Le 5 juillet 1962, à Oran, le jour de l'indépendance, des fusillades éclatent. Et une partie de la population française va être enlevée et passée par les armes dans un endroit qui s'appelle le Petit Lac. Et on estime entre 800 et 900 personnes qui auraient été assassinées à ce moment-là. Et donc toute la population qui restait à Oran jusqu'alors va être prise de panique et va partir en quelques heures. Et là, on est dans des scènes de chaos, littéralement de chaos. Les autorités françaises n'ont évidemment pas anticipé un départ, un exode, après tout le terme est juste, un exode si massif. Un pays ne peut pas se vider de sa population comme ça. La France va certes augmenter les rotations de bateaux, va certes augmenter les rotations d'avions, mais nous ne sommes pas à l'époque des Airbus A380. On ne peut pas surcharger les avions, et les avions, somme toute, un avion Caravelle n'a pas énormément de place, sans doute entre 70 et 80. Donc, il y a eu certes une réaction des autorités françaises qui ont autorisé de plus grandes cadences et autorisé des transports surencombrés. Mais ils ne peuvent pas faire de miracle non plus. Donc les attentes sont longues et les voyages particulièrement inconfortables. L'État a extrêmement mal anticipé. L'État n'a pas pensé qu'un monde pouvait disparaître et qu'une société entière pouvait disparaître en quelques mois.
Je crois que jusqu'au bout, cette question de lâcher l'Algérie n'était pas complètement intégrée, alors que les accords d'Évian avaient été écrits, avaient été signés. Et que faire de cette population-là? Je pense qu'elle n'était absolument pas dans les radars de l'anticipation politique du moment. Absolument pas. Alors peut-être que dans les accords d'Évian, on avait dit aussi que il y avait la possibilité pour les pieds noirs de rester en Algérie. D'ailleurs, le président Ahmed Ben Bella, qui était le premier président de l'Algérie indépendante, avait lancé un appel aux pieds noirs en leur disant nous aurons besoin de vous, puisque c'est les pieds noirs qui détenaient tous les monopoles, qui avaient le monopole des savoir-faire, des savoirs techniques. C'est eux qui étaient des administrateurs, des enseignants, des médecins, des gens qui travaillaient dans tous les secteurs économiques possibles. Et oui, nous aurons besoin de vous, mais la violence de ce moment de crise a été telle que les gens sont partis et qu'on a eu entre 800 000 et 1 million d'individus qui sont partis en catastrophe. Et tellement catastrophe, c'est une catastrophe pour l'Algérie indépendante. Hein. Je rappelle que quand même, en 1962, il n'y avait plus que 200 médecins en Algérie pour une population de 9 millions de personnes. C'était tous les enjeux aussi de politique publique, de santé, etc., et d'éducation et tout, c'était énorme, en fait.
Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas encore?
Je ne sais pas encore, suivant les événements.
Vous avez des parents en France?
J'ai toute ma famille.
Par conséquent, vous allez décider maintenant?
Non, en Algérie.
Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre?
On allait le soir, dès qu'on avait fini nos cours, le soir et la nuit, une partie de la nuit, on allait accueillir les bateaux qui arrivaient au port de Marseille. Et donc, ils arrivaient, ils étaient épuisés, ils avaient dormi, mangé sur le pont, ils n'avaient plus rien, tout le monde pleurait, c'était un spectacle que là aussi, j'ai des images qui me restent, que je ne pensais pas voir un jour, que je n'imaginais pas voir, et le manque d'accueil, le fait que rien n'était prévu pour les accueillir vraiment. Alors nous achetions du lait pour les enfants, nous portions un peu de nourriture, des couvertures, et puis on essayait de les renseigner parce que on allait se renseigner un petit peu pour savoir s'il y avait des centres d'accueil à Marseille. Il y en avait quelques-uns, mais qui étaient complètement débordés. Donc finalement, ils avaient envoyé des gens dans un immeuble qui était dans la banlieue nord, un immeuble qui était en construction. Et donc ces gens dormaient dans des pièces ouvertes complètement, dans des tentes. Alors on essayait de les accompagner. On n'avait pas de voiture en général, on avait quelques copains qui avaient une voiture, donc on s'arrangeait soit pour les accompagner quelque part, soit pour leur dire ce qu'ils pouvaient faire, où ils pouvaient aller à Marseille pour se renseigner. Mais encore une fois, il y avait très très peu de choses de prévues.
Vous êtes arrivé où en
France ? On est arrivé à Toulouse. C'était plutôt une chance puisque nous avions de la famille du côté de Perpignan. Donc on a dormi une nuit, on est arrivé en pleine nuit à Toulouse. On a dormi dans un hôtel qui a mis beaucoup de mauvaise volonté à nous accepter parce qu'il pensait que nous étions des indigents et que peut-être nous ne paierions pas les chambres. Et ma mère, qui était une dame extrêmement bien élevée, sobre, ne parlant jamais trop fort, etc., a eu une espèce de crise de colère. Elle a sorti une liasse de billets que mon père avait dû lui fourrer dans la poche au dernier moment. Elle a jeté cette liasse de billets sur le comptoir et elle a dit « Monsieur, nous ne sommes pas des indigents, nous paierons nos chambres, mais s'il vous plaît, installez-nous quelque part. » Et nous avons eu des chambres pour mes tantes, mes cousines, mes cousines et mes cousins. Mais voilà mon souvenir, en tout cas, de la façon dont nous avons quitté l'Algérie, c'est-à-dire des bousculades, cette situation très, très inattendue d'être des réfugiés. C'est comme ça, par la suite, chaque fois que j'ai vu des images de réfugiés ou des récits sur les réfugiés, j'ai compris que c'est exactement ce que nous avions vécu.
On est arrivé par le bateau à Marseille. On a mis 24 heures pour y arriver, d'Alger jusqu'à Marseille. Et là, y avait la Croix-Rouge qui nous attendait avec des verres de jus d'orange. Et j'avais tellement mal et tellement... Je n'arrivais même pas à accepter leur verre de jus d'orange parce que j'en voulais un petit peu à ce pays qui ne nous avait pas défendus, qui nous rejetait. Et je me souviens que j'avais dit « mais j'en veux pas de votre jus d'orange ». Et à ma petite sœur, je lui ai dit « prends, tu dois avoir soif » parce qu'on n'avait ni mangé ni bu. Et elle m'a dit « non, moi non plus, j'en veux pas ». De là, on est arrivé dans une école où on nous a donné une soupe. Et de là, on est parti à pied à la gare. Et je me souviens qu'en arrivant sur ce quai à Marseille, c'était le 21 juin, il faisait gris. Le vent qui soulevait les papiers, les murs gris, sales. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est si sale que ça, la France. Voilà le premier regard que j'ai eu sur la mère patrie.
Il faut rappeler aussi que si ça a été aussi compliqué, outre le fait qu'il n'y avait pas d'anticipation politique pour les accueillir, c'est que il faut rappeler que Marseille était une ville très pauvre. Marseille, en 1962, deuxième ville de France, ne s'était absolument pas remise des bombardements et des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Et de voir arriver 450 000 personnes arrivées comme ça, ça a été véritablement le désordre le plus total, à tel point que le maire de l'époque, Gaston Defferre, avait eu cette phrase terrible et un peu malheureuse, qui avait dit, mais qu'ils aillent se réadapter ailleurs. Et cette phrase, qu'ils aillent se réadapter ailleurs, c'est quelque chose qui avait été prononcé en juillet 62. Et bien, les pieds noirs, elles résonnent encore un peu dans la mémoire des plus anciens. Mais en fait, je pense que Gaston Defr, il ne faisait que relayer l'opinion de ses administrés à l'époque. Parce que qu'allons-nous faire de tous ces gens-là? Parce qu'en fait, le port marseillais étouffait littéralement par l'arrivée de toutes ces personnes et qui arrivaient dans des conditions assez... ils arrivaient dans des paquebots, mais pas que. Ils arrivaient dans des cargos, ils arrivaient dans des pinardiers, dans des chalutiers. Et tous les jours, des milliers de personnes qui débarquent sur le port. Et le port de la Joliette de Marseille, c'est pas celui d'aujourd'hui. C'est un tout petit port, hein, en 1962. Et qu'on n'avait qu'un seul centre d'accueil où il y avait 8 employés. Pour justement encadrer, conseiller, guider ces centaines de milliers de personnes. Non, mais c'était quelque chose qui était absolument dramatique.
Sans doute, en raison du nombre, les autorités étaient débordées, mais je dois dire, enfin, c'est tellement connu que je peux le dire sans problème, c'est que à l'époque, la ville de Marseille et le maire Gaston Defêr étaient extrêmement opposés à l'arrivée des pieds noirs. Sur le port de Marseille, il y avait des banderoles où il y avait écrit « Les pieds noirs à la mer, retournez chez vous ». Et puis, il y avait une telle méconnaissance de la part des Français qui nous considéraient un peu comme des gens qui, un peu attardés, enfin, qui vivaient dans ce pays barbare. Et il y avait cette impression-là que nous n'étions pas comme les autres. On n'était pas vraiment des Français.
Marseille est le grand centre de ces rapatriés d'Algérie. Les entours de la Bourse, chaque soir, deviennent le quartier général de cette foule bigarrée qui essaye de retrouver là ses habitudes de langage et de ton. On y retrouve un parent, on y rencontre un ami, les nouveaux arrivés donnent des nouvelles, les autres renseignent et conseillent. Le cours de Verdun est devenu une sorte de babelouette de transit.
Ils n'avaient pas 1000 endroits où se retrouver. Il y avait une espèce de... Sur la place de la Bourse, aujourd'hui, ce qu'on appelle la place de la Bourse, et qui était à l'époque la place du général de Gaulle, en fait, il y avait deux bars qui étaient tenus par des rapatriés et qui étaient le lieu d'information absolue où les gens se réunissaient énormément, et ça créait des embouteillages absolument. Et donc là aussi, dans la presse, mais qu'est-ce que c'est que ces pieds noirs qui ne savent pas, enfin, c'était intéressant parce que les pieds noirs ont eu à subir, eux, en fait, des représentations racistes. En fait, c'est des Algériens qui savent pas c'est presque comme des Arabes qui ne savent pas bien se conduire, qui ne savent pas se conduire dans l'espace public, qui trouble l'ordre public, qui parle trop fort, voilà. Et du coup, des centaines de pieds noirs pouvaient se faire comme ça, ramasser, interpeller par la police qui était arrivée parce qu'il y avait des plaintes de la part des voisins, où il y avait des vérifications d'identité. En fait, vraiment, même la police marseillaise entretenait des rapports très peu amicaux à l'égard des rapatriés d'Algérie.
On a été mal reçus d'abord parce qu'on était perçus comme des envahisseurs. On était 1 million qui arrivions comme ça tout d'un coup. On allait prendre le travail des gens, on allait prendre les appartements qui étaient libres. Enfin, on allait déranger. Et il n'y avait pas seulement ça, il y avait aussi l'idée qu'on était blâmables. Nous étions des gens blâmables, on s'était mal comportés, entre guillemets, je le mets moi, entre guillemets. On pensait qu'on avait maltraité les gens qui nous entouraient. En tout cas, il y avait cette espèce de suspicion permanente que nous n'avions pas les mains propres et que nos familles avaient probablement fait des choses qu'il valait mieux ne pas entendre, parce que c'était vraiment, vraiment des choses graves.
On peut dire que la majorité des Français d'Algérie étaient pour le maintien de l'Algérie française et de leur statut.
Paul Max Morin.
Avec peut-être éventuellement des réformes du système colonial. Mais de là à dire que la plupart des Français d'Algérie soutenaient le mouvement terroriste et la sécession, etc., et la violence qui en a suivi, je ne pense pas. Néanmoins, ce qui se passe évidemment à la fin de la guerre, c'est que les derniers, les ultimes représentants de ce monde colonial qui ne veut pas mourir, c'est l'OS. Et du coup, lorsque les rapatriés arrivent en métropole, ils arrivent avec l'image que les métropolitains ont de ce qui se passe en Algérie, donc c'est-à-dire de ces personnes radicalisées politiquement, qui vivent dans un monde colonial dépassé, qui ne comprennent pas, qui sont égoïstes, qui vivent avec leurs privilèges, qui sont violents, racistes, et qui viennent se réinstaller là et qui se plaignent, etc., alors qu'ils n'avaient pas compris que tout devait changer.
Les dockers de Marseille, qui étaient quasiment tous encartés à la CGT à l'époque, avaient affiché une très très forte hostilité à l'égard des rapatriés, qui étaient considérés d'être de gros capitalistes, des racistes, mais aussi ceux qui avaient fait, je reprends l'expression de l'époque, suer le burnous, voilà, qui étaient des gros exploiteurs et qui avaient fait travailler les Arabes de façon scandaleuse et en fait qui méritaient ce qui leur arrivait. Et il s'est passé des choses assez dramatiques, c'est-à-dire que tous les meubles, les valises, les caisses que ces personnes-là avaient pu faire partir d'Algérie, eh bien, soit on les a laissés dans le port de Marseille, on les a fait pourrir dans l'eau, ou alors tout simplement, elles avaient été dérobées. On avait volé leurs affaires. Et c'est vrai que le climat se prêtait à tous les amalgames. Et ça, la presse de l'époque, moi, je l'ai systématiquement étudié dans les trois journaux de l'époque, la Marseillaise, le Méridional. Et le Provençal, et on voit bien tous les amalgames, les rapatriés, c'est des racistes, des profiteurs, mais aussi des voleurs, des criminels, des mafieux, enfin on avait tout ça. Voilà, tout ça, c'est reconstituer un peu l'ambiance de cet été 1962, qui a été un été très très chaud dans tous les sens du terme.
Né de l'autre côté de la Méditerranée, le pied noir, vu par le français de la métropole, est un individu à l'accent prononcé, épouvantable à certains moments. C'est bien pour cela qu'il ne peut pas être mis au contact de la clientèle dans certaines branches professionnelles où la distinction bourgeoise est exigée. Associé au couscous et au merguez, il fait rire. Il est de droite, puisque c'était un colon avec des gens pour se faire servir. Il est revenu de son pays avec beaucoup d'argent. C'était un sympathisant, voire un militant de l'OAS. Son bulletin de vote est à droite. Il est obligatoirement raciste envers les Arabes, dont il a fait suer le burnous pendant 130 ans. Nous pouvons continuer la longue liste des stéréotypes. Les Algériens ne l'employaient pas avant la guerre d'Algérie. Et sa généralisation est bienvenue de la France métropole. Dans la relation français de France, français d'Algérie, il introduit une forte ambiguïté. Elle aussi, entre la sympathie d'extrême droite, quelquefois très paternaliste, et le mépris gauchiste, franchement sectaire. Augustin Barbara. Pourquoi pied noir ? Tribune du Monde, 6 août 1980.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, vous pourrez écouter le spectacle que présente le Théâtre Antoine à Paris et le Centre Régional d'Art Dramatique d'Alger. Vous entendrez La famille Hernandez, scène de la vie populaire algéroise, mise en scène de Geneviève Bailac.
Tu trouves pas que de loin, on dirait Gérard Philippe ?
Oui, de loin. Toi, tu vois les artistes partout, hein, tu as la tête montée par Cinémonde.
Oh, c'est trame, tous les jours la même chose, tu sais.
Il y avait des clichés. Les Français de France ne connaissaient rien des Français d'Algérie, ils ne savaient pas qui c'était. Ils connaissaient, je crois, une espèce de pièce de théâtre, La famille Hernandez, c'est-à-dire une sorte de caricature de Français et d'espagnol aussi, enfin issu de la région d'Oran, et qui parlait comme ensuite s'est appliqué à parler Marthe Villalonga, par exemple.
À la fin, elle meurt, dit, la semaine prochaine, c'est la suite.
Et quand on disait les pieds noirs, cette espèce de masse qui avait envahi la France tout d'un coup, ben, on dérangeait, on était trop nombreux. D'ailleurs, qui était-on ?
Dans l'après-midi, le ministre et les autorités marseillaises devait se rendre au centre de la Rouguière, où le nouveau groupe de logements a été transformé en centre de transit. Ici, un millier de lits sont à la disposition des repliés d'Algérie. Ce centre peut accueillir 2000 personnes qui se renouvellent au rythme de plusieurs rotations par semaine.
En moins de 4 ans, Marseille change de visage. Il faut rappeler que l'arrivée des rapatriés à Marseille, c'est 15% de population supplémentaire. Et évidemment, il va y avoir des HLM. Et puis, il va y avoir aussi des opérations de promotion immobilière très, très rapidement, voilà, avec des copropriétés géantes, voilà, qui vont fleurir. La plus connue à Marseille, c'est la Rouvière, qui comptait 2000 logements à l'époque. Et un peu plus à l'écart, et alors là, c'est pas les... Ce n'est pas l'initiative des pieds noirs algériens, mais des pieds noirs marocains. À plusieurs kilomètres de Marseille, il va y avoir un projet un peu fou de construction, en fait, d'une toute petite ville qui s'appelle Carnoux-en-Provence. C'est une coopérative de pieds noirs qui va acheter plus de 270 hectares, en fait, de garrigues. Et qui vont construire cette ville qui va devenir la 119e municipalité des Bouches-du-Rhône et qui va être une ville pieds-noirs, qui va être dotée de ses propres écoles, d'un collège, d'un cimetière tourné vers l'Algérie et d'une église qu'on va appeler Notre-Dame d'Afrique, qui serait la référence miniature de la basilique d'Alger.
À Carnoux, en Provence, entre Aubagne et Cassis, dans un merveilleux vallon boisé situé entre mer et montagne, le Cap Canaille et la Sainte-Baume, une ville se construit. Elle est née des difficultés rencontrées par les Français du Maroc pour poursuivre leurs activités dans ce pays. Ces premières images, de Carnoux en Provence, nous montrent seulement le huitième du premier groupe d'habitations, soit 112 villas.
Écoutez, moi je suis donc Christian Fennec. Et j'ai l'âge de l'exil, moi, j'ai 63 ans. J'ai l'âge de l'exil puisque j'ai été fabriqué à Bonn et je suis né à Cassis. Vous voyez un peu le truc, j'ai fait le voyage dans le ventre de ma mère. Donc je fais plus une synthèse. Je suis président de Racines Pieds Noirs, qui est une association qui tente de perpétuer la mémoire du vécu des Pieds Noirs, avec une orientation nouvelle, c'est-à-dire que je souhaite qu'on passe, si vous voulez, du simple souvenir et de l'évocation qu'ont eu nos aînés à une mémoire. Et là, nous nous trouvons à Carnoux-en-Provence, dont ma famille a fait partie des premiers habitants. Et on est devant l'église, justement, dénommée Notre-Dame d'Afrique, en référence à la basilique Notre-Dame d'Afrique, qui est toujours à Alger. Les cloches ont quand même été ramenées de Saint-Denis-du-Sigue, qui est en Oranie. Là, vous avez un grand boulevard qui, à l'époque, était un grand chemin de terre. Il faut s'imaginer ici, il n'y a rien. Carnoux, c'est la ville qui aurait jamais dû être, parce qu'elle va naître de malheur. C'est l'arrivée des pieds-noirs d'Algérie qui va relancer le projet ici à Carnoux, puisque ma propre famille, dès fin 61, mon grand-père maternel avait entendu parler de qui se constituait ce village. Et il avait pris une option sur un lopin, comme d'autres pieds noirs d'Algérie aussi.
Dans ces conditions particulièrement heureuses, les Français d'outre-mer trouveront à Carnoux en Provence l'ambiance favorable à leur réadaptation à la vie métropolitaine.
Les deux tiers des villes algériennes sont des créations ex nihilo françaises. Voilà. Et bien c'est pareil pour Carnoux. On a refait ici la même chose, mais dans un esprit d'ouverture. Et ça se sent aussi, que ce soit dans l'architecture, mais dans la toponymie. C'est-à-dire que vous avez certes l'église Notre-Dame d'Afrique.
Là, il y a le boulevard Lyoté.
Là, vous avez le boulevard Lyoté qui donne sur le boulevard du Maréchal Juin, qui était un Benoît. Le boulevard Maréchal Juin qui aboutit au stade Marcel Cerdan, en passant devant le centre culturel Albert Camus. Mais l'école, elle s'appelle Frédéric Mistral. Là-bas, vous avez l'allée du Ventoux, l'allée du Gabian, etc., etc. Donc, il y a dans la toponymie cette volonté de certes rappeler l'origine, mais de dire nous sommes ouverts.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du cimetière de Carnoux?
Oui. Alors, le cimetière de Carnoux, il a une particularité. Là encore, il y a un truc particulier. C'est que pendant plusieurs années, ce cimetière a fonctionné, alors comment dirais-je, pas dans les règles du droit commun. Vous savez que normalement, pour pouvoir être enterré dans un cimetière, il faut avoir un lien fiscal avec la commune, c'est la loi. Et donc ce cimetière, il a fonctionné un petit peu de manière hors norme, c'est-à-dire que même des pieds noirs qui n'habitaient pas le site voulaient se faire enterrer ici. Et donc vous avez pendant plusieurs années des tas de pieds noirs, mais de la France entière, pas que de la région, qui avaient leur concession au cimetière de Carnoux. Et qui plus est, c'est le cas aussi de ma famille, on a fait aussi ramener certains morts qui étaient enterrés en Algérie. Nous aussi, nous avons notre caveau familial qui est ici. Et mon père, qui a pourtant été pendant presque un quart de siècle adjoint au maire de Cassis, il s'est quand même fait enterrer ici. Vous voyez,
Pourquoi est-ce que vous avez voulu comme ça vous investir pour cette mémoire de l'histoire pied-noir ?
Ça, c'est une vraie question, je me la suis posée pendant longtemps. J'ai trouvé la réponse en écoutant la chanson de Liane Folly, qui s'appelle « Déraciné ». Vous connaissez cette chanson ? Ben, je vous encourage à l'écouter, parce que moi, le jour où je l'ai entendue, malheureusement, elle n'a pas eu trop de succès, cette chanson. Et là, j'ai tout compris. Liane Folly, dans le même cas que moi. C'est-à-dire qu'elle a été conçue, elle, à Oran, et elle est née à Lyon. Moi, j'étais conçu à Bonne, et je suis né à Cassis. Et elle a décrit comment l'embryon qu'elle était avait ressenti ce qu'avait ressenti sa mère. C'est curieux. Et moi, je crois que c'est ça aussi. Excusez-moi, mais je vois que ça comme explication, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ces événements. Alors, je ne les ai pas vécus, mais j'ai l'impression d'avoir vécu. Quand il y a une image à la télé d'archives ou quoi, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. C'est quand même fou. Et je pense que l'explication, elle est dans cette chanson de Liane Folly, que j'aimerais, si un jour elle entend, moi j'aimerais la rencontrer. Un jour j'avais écrit, mais vous savez, elle ne m'a pas répondu. Pas si elle écoute. Je crois que l'explication, elle est là. Le fœtus, l'embryon que j'étais, comme Liane Folly, elle le dit avec beaucoup de poésie dans cette chanson, peut-être vous la passerez ce jour-là, elle disait qu'elle avait ressenti ce que ressentait sa mère. Ben, moi je crois que c'est ça. La douleur du déracinement, la douleur de l'exil. Et quand j'entends cette chanson, je suis resté, mais c'est moi ça, c'est moi.
Entre deux soleils, entre deux continents, glissé sous le ciel, un grand bateau tout blanc. Pendant que ma mère pleurait, dans son ventre, moi j'attendais de naître pour. Mon passé, je ne le connais pas. D'où je viens, où je vais, je ne le sais pas. Dans mon cœur résonne encore cette terre, se parle fort comme unique héritage. Déraciné, sans un décor.
Donc, rapatrier, c'est un terme juridique. Exilé, bien, c'est une expérience migratoire. Lorsque les gens se disent exilés, on comprend qu'il y a l'expression d'un drame, l'expression d'un profond malaise qui consiste à être chassé de chez soi sans pouvoir y revenir. Donc, j'aurais tendance à vous dire que les termes ne s'opposent pas. Si on parle du point de vue de l'État, on parle de rapatriés. Si on parle du point de vue des individus, bien, si ils ont une expérience qui est douloureuse, et après tout, ils ont bien le droit d'exprimer leur souffrance, bien, sans doute vont-ils préférer utiliser le nom d'exilé plutôt que, ou l'adjectif d'exilé plutôt que celui de rapatrié qui est un peu froid et manque un peu de chair.
Je pense que mes parents, j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que mes parents ont été tellement traumatisés par cet épisode, tout simplement par l'abandon de leur vie, en quelque sorte. Ils ont abandonné, comme tout le monde, comme tous ces gens-là, ils ont abandonné à la fois leur maison, leur mort dans les cimetières, leur bien, tout ce qui était leur vie, etc. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu, comme beaucoup de pieds noirs de cette génération-là, ils n'ont pas voulu trop parler et ils ont voulu, je pense, tourner la page et essayer d'oublier, de faire une nouvelle vie. Ils n'ont pas vraiment parlé de ce qui s'était passé cette dernière année-là en particulier, ou assez peu, disons, assez peu. Et ils ont essayé de refaire en France la famille telle qu'elle était et de garder les habitudes, les voilà.
À partir du moment où nous sommes arrivés en France et où il a fallu, comme il disait, tourner la page, on n'a plus jamais parlé de l'Algérie. C'est pour ça que moi, en tant qu'adulte, j'ai mis très longtemps à savoir et à comprendre ce qu'on avait vécu, ce qui nous était arrivé, l'histoire de l'Algérie d'ailleurs aussi, et que bien entendu, j'ai beaucoup lu au fil du temps, parce que les livres, n'y a pas eu des livres tout de suite, mais j'ai toujours suivi un peu les livres qui étaient écrits là-dessus, et au fil du temps, j'ai compris que nos histoires individuelles, c'était des histoires tristes, évidemment. Quitter un pays pour n'importe quelle personne dans le monde, quand vous vivez un exil définitif, c'est terrible. C'est terrible parce que tout ce que vous connaissiez, tout ce que vous aimiez, disparaît du jour au lendemain. Et ça, même en étant enfant, on en a conscience.
Est-ce que vous êtes retournée déjà en Algérie ?
Non. Alors, je n'ai jamais voulu. C'est un peu un regret, mais moi, j'ai toujours pensé que je ne pouvais pas retourner voir les choses qui avaient été mon enfance et ne pas les retrouver, finalement. Parce que, bien sûr, j'aurais retrouvé les paysages, j'aurais retrouvé... Mais je n'aurais rien retrouvé, je pense, de ce qui était ma vie... D'abord, j'ai su par des amis qui étaient repartis, eux. J'ai reçu que la maison de mes parents avait été détruite pour construire un petit immeuble. Et puis, voilà, donc, j'y ai vécu une enfance et une adolescence tellement heureuse, tellement idéale, je dirais, que je pensais que retourner là-bas, ça serait un crève-cœur plutôt qu'autre chose. Donc, je n'y suis pas retournée.
63 ans après, c'est toujours un poids, c'est toujours quelque chose qui est difficile ?
Oui. Ah oui. J'y pense très, très, très souvent. Je pense très, très souvent à ma maison, à la maison où j'ai vécu, à ma chambre. Et j'y pense très souvent. Alors, bien sûr, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, mais... C'est quand même quelque chose qui est vraiment profondément ancré et je pense que je ne peux pas m'en défaire.
Merci à Anne Mattei, Annie-France Ferrandis, Elisabeth Pujol, Christian Fenech, Karima Diresh, Jens Kellozurker, Paul-Max Morin, Nicolas et André Boulan. Lecture, Elodie Vincent. Prise de son, Benjamin Reyes, Nadège Antonini, Ludovic Augier, Nicolas Mathias, Anthony Maillet de Santis et Youssef Boubekeur.
Où es-tu, place du gouvernement ?
Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les pieds noirs d'Algérie, la colonisation pour mémoire. Épisode 2, l'exil en commun. Un documentaire de Marceau Vassy, réalisé par Cécile Lafont.